Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Salutations tout le monde. Ça vaut le détour édition du 19 aujourd'hui. 19 février. Bienvenue à canalm.org peut-être si vous nous syntonisez ailleurs que par le truchement de votre téléviseur. Et aujourd'hui, ben, entre autres, on donne un petit coup de chapeau, comme d'autres l'ont fait, du côté de Granby, un salon de beauté, salon de coiffure qui s'est mérité un prix orange par certains organismes de la place. Apparemment que le propriétaire a fait des efforts, en fait c'est la propriétaire, a fait des efforts pour rendre son établissement accessible. Et je remarque que chez Ben Labédène, s'est mérité le même prix l'an passé. Ben, qui est peut-être un des endroits de la petite gastronomie du coin bien connu. On va également s'intéresser au challenge hivernal du côté de Québec, 5e édition. Jason Lang, disons porte-parole et principal artisan d'un spectacle pour l'association de la trisomie 21, la Naudoise, on lui parle. Et Nicole Trudeau, qu'on est content de recevoir, est à mes côtés. Nicole, qui est allée voir cette exposition dont on a entendu parler dans les médias. Sophie Kahl, qui était au Québec il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, Nicole, tout en vous saluant, vous me disiez que vous aviez eu la chance de l'entendre en conférence?
Oui, je suis allée l'entendre il y a une dizaine de jours, lorsqu'elle était à Montréal pour l'inauguration de l'exposition au Musée d'art contemporain.
Une conférence qui n'était pas nécessairement liée à l'exposition, mais qui vous a quand même aidé à comprendre un peu le personnage.
Ben, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée, elle a expliqué ses projets, son approche. Maintenant, elle ne s'est pas attardée sur l'exposition parce qu'elle disait, ben, vous allez la voir, donc je vais vous parler de mes autres projets. Mais ça m'a quand même permis de la situer, de la connaître un peu comme artiste. Alors, ça m'a aidé, elle m'a préparé à visiter l'exposition d'une certaine manière.
L'image, Nicole, est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps. Vous avez même travaillé pour former les artistes, les guides au Musée des Beaux-Arts, de façon à ce que ceux-ci puissent tranquillement nous offrir le plus fidèlement possible la description nécessaire. Parlez-moi de votre rapport à l'image et parlez-moi de cette idée qu'une artiste qui offre une exposition traitant de la non-voyance, présume qu'on va voir l'exposition. Donc, on se rend compte que tranquillement, c'est long de sensibiliser quelqu'un, même si ce quelqu'un-là a travaillé longtemps sur la basse vision ou la cécité. Moi, ça m'a titillé quand vous m'avez raconté cette histoire-là, que ben, je ne vous parlerai pas de l'exposition, de toute façon, vous allez la voir.
Vous parlez de ce que Mme Sophie Kahl a expliqué. Ouais. Ben, c'est-à-dire que quand elle a dit « vous allez la voir », elle ne s'adressait pas à un public de non-voyants. Hein. Probablement que j'étais la seule dans la salle qui était non-voyant. Alors,
mais c'est justement cette idée qu'encore en société, on présume et on oublie cette minorité qui, que ce soit la cécité, que ce soit toutes sortes de difficultés en mobilité ou... Cette idée que même si on fait une exposition traitant d'un public particulier, on n'a pas le doigté de penser qu'il serait possible qu'il y en ait dans la salle qui aurait peut-être des questions. Je ne sais pas. Ça, en tout cas, j'imagine que ça m'a chatouillé davantage que vous.
Oui, moi, je ne peux pas dire que ça m'a dérangé. Il y a quelque chose après que je vous expliquerai qui m'a interpellé, par exemple. Mais... au départ, je me dis, au fond, quand on est non-voyant, on fait partie aussi de l'ensemble de la société. Ouais. Et puis moi, curieusement, j'ai pris conscience tard dans ma vie que certains gens soulignaient qu'on ne devait pas utiliser le mot « voir » quand on s'adressait aux non-voyants. Ouais. Parce que tout au long de mon éducation, et à l'époque, j'ai grandi dans les pensionnats, entre non-voyants, nous n'étions que des non-voyants, et le personnel d'encadrement, les professeurs, le personnel éducatif, ont toujours utilisé le mot « voir ».
Bien sûr.
Allez voir, vous faites ceci, regardez cela, pour moi, c'est comme quelque chose de naturel, mm-hmm. dans le sens que je me dis, pourquoi on s'interdirait le mot voir? Ce qui est important de comprendre pour moi, c'est le voir autrement. C'est-à-dire, la vue, c'est un accès, c'est une perception, mais on peut percevoir les choses autrement qu'avec la vue. On a d'autres sens, on a tout l'univers parasensoriel, moi, auquel j'accorde beaucoup d'importance. Donc, je ne suis pas blessée par le fait qu'on me dise « regarde ».
C'est juste un usage linguistique, je suis d'accord avec vous. Par contre, si l'exposition elle-même n'a pas été pensée, et j'ai ouï dire qu'il y avait peut-être certaines ratées de ce côté-là, si l'exposition n'était pas nécessairement très accessible pour la personne qui ne voit pas, si on n'a pas adapté, j'ai l'impression que ça revient encore à je vous répondrai pas, j'en parlerai pas parce que de toute façon, vous allez l'avoir, cet oubli-là.
C'est-à-dire que c'est certain que l'exposition qui a pour objet et pour sujet les aveugles est totalement inaccessible aux aveugles sans l'intermédiaire d'une personne qui va vous lire les textes ou décrire les images. Alors ça, une fois que j'ai vu l'exposition, j'insiste sur le mot, parce que j'ai visité l'exposition, mais je n'étais pas seule, bien entendu, parce que ça, je me doutais bien que ça allait être comme ça. Là, je me suis dit, j'oserais avoir une suggestion pour Madame Sophie Kahl. C'est-à-dire que l'exposition se présente, vous avez d'abord la photo des individus, donc, qu'elle fait parler parce qu'elle demande donc à des non-voyants l'image, la dernière image qu'ils ont vue ou qu'ils ont retenue. Donc, on voit une photo de la personne. Sous cette photo, on a le texte de ce qu'a raconté la personne, un texte en imprimé, bien entendu. Et à côté, une autre image qui illustre la situation dans laquelle la personne a perdu la vue, etc. Or, je me dis, même la guide, il y avait une guide au musée qui commentait la visite, elle m'a dit au début de la visite, j'ai été étonnée de ne pas voir un panneau en braille pour présenter le texte. Je me dis, ça aurait pu s'ajouter à l'organisation de l'exposition. Puis je me disais en plus, si Madame Sophie Kahl elle-même avait décrit l'image elle-même, ça aurait été, et c'est possible aujourd'hui de faire des enregistrements sonores et de diffuser à volonté si on veut l'écouter. Puis je me dis, non seulement ça aurait été enrichissant pour les non-voyants, c'est-à-dire pas juste enrichissant, ça nous aurait vraiment mis en situation... Mais je me dis, même pour les personnes voyantes, ça aurait pu être une expérience enrichissante parce que tout le monde ne voit pas les images de la même manière. Or, une personne voyante regarde l'image et après ça peut écouter ce que Mme Sophie Kahl, a retenu de l'image. Il me semble que ça aurait été un plus pour l'exposition. Ouais. Parce que c'est sûr que telle qu'elle est présentée, c'est une exposition qui nous exclut. Si on n'a pas quelqu'un pour nous accompagner dans la visite.
Est-ce que cette prémisse de l'exposition, la dernière fois, donc cette idée d'essayer de raconter un peu la dernière image autant que cela soit possible, souvent on ne réalise pas nécessairement quelle était la dernière image, mais somme toute, les derniers souvenirs visuels, est-ce que cette prémisse-là, à la base, vous intéressait?
C'est-à-dire que je me disais, c'est pas sûr là, qu'on se souvienne absolument de la dernière image, parce que d'abord, on ne sait pas que ce sera la dernière. Et puis, je pense aussi, c'est parce qu'elle, probablement, dans son prémisse, il y a plusieurs des personnes qu'elle interroge qui ont perdu la vue assez rapidement. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde, et ça n'est même pas le cas de tout le monde qu'elle présente, Il y a des gens, dont la vue s'est désintégrée progressivement, etc. J'avais une petite hésitation, mais je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais voir. Mais moi, je pense qu'après avoir vu et surtout lu les textes, je me dis, en fait, l'image que l'on retient ou qu'on ne retient pas, bien entendu, est liée beaucoup à l'émotion qui a été vécue à ce moment-là.
Il y a des commentaires qui vous ont touché?
Oui, oui, oui.
D'autres?
Il y a quand même des commentaires. Voulez-vous que je vous en lise un ou deux?
Ben, mon Dieu, si vous avez du verbatim, on prend tout.
Ben oui, j'ai le texte avec moi. Là.
D'accord.
Alors, c'est un jeune garçon. Il dit... Il est né aveugle. Hein?
Mm-hmm. OK.
Il n'y a pas de dernière image. Il n'y a pas d'image du tout. Je suis né aveugle. Mais il y a une image de rêve. Une décapotable... Je suis au volant, lunettes noires, jeans, t-shirt, une femme, de la musique techno. La route, droite pour aller plus vite, longe la mer, la voiture est noire. Je trouvais ça assez...
Ouais.
C'est touchant, ça veut dire que même s'il n'a jamais vu, il rêve d'une image, il pense à une situation... Je trouvais ça touchant. Ouais,
une situation souvent décrite, que ce soit dans les livres, dans les films.
Mais qui le touche, ouais, puisqu'il l'a reconnu et d'une certaine façon, il l'a reconstitué. Je peux vous en lire une autre, si vous voulez?
Oui, allez-y.
Là, c'est une dame. Il y a 4 ans que je caresse le visage de mon mari. Je ne le vois plus, mais je refuse que ses traits s'effacent. Mmh. C'est la seule image qui me reste. J'ai tout oublié, même la tête de mes enfants. Mon mari a des yeux couleur noisette, des sourcils qui se touchent, un nez un peu grand pour son visage, une cicatrice au menton, je ne sais pas de quel côté, parce qu'elle n'est plus saillante. Une expression d'homme fâché. Pardon. L'attitude raide et le regard bon.
Okay.
Un vrai Turc, terriblement beau. Ses tempes seraient grises, dit-on, mais mon image a encore les cheveux bruns et aura toujours 39 ans.
Ça, c'est intéressant parce que souvent, je dis la même chose. C'est vrai qu'on a tendance, en tout cas moi, j'ai tendance à bloquer une image. Et même si on me dit « Ah non, j'ai les cheveux de telle couleur », je ne sais pas si on associe à ce qu'on a déjà vu et la voix que cette personne-là avait jadis ou le contexte, mais ça devient difficile, même si rationnellement on le sait, de modifier. Vous-même, Nicole, dites avoir une pensée visuelle.
Oui.
Pouvez-vous élaborer?
C'est-à-dire que dans mon esprit, dans mon imaginaire, moi, je crois profondément à l'image mentale, pour moi, hein? Alors, j'ai toujours une image ou une ambiance ou un environnement et dans un lieu, pour m'orienter bien, il faut que je puisse reconstituer l'environnement. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Je vis dans un espace, je vis dans une espèce de lueur dans laquelle je crée des décors. Pourquoi j'aime aller au musée? C'est qu'au fond, pour moi, aller au musée, c'est me donner à voir. C'est-à-dire, à mesure qu'on me donne une information, je recrée le tableau.
Ouais.
Je le recrée en couleur, dans l'espace, en plan. Et c'est comme une... Je dirais pas que... Bon, c'est ma réalité, c'est mon besoin. Hein? C'est quelque chose de très, très instinctif. Et j'ai toujours été comme ça, très, très jeune aussi. J'avais
Donc,
comme besoin...
l'information reçue passe par un traitement... qui est associé à une image.
Je la reconstitue. Ouais. C'est comme si on me donnait les mots. C'est comme un casse-tête que je refais.
Mm-hmm. Ouais, je comprends tout à fait. C'est jusqu'au 10 mai, au Musée d'art contemporain. Ça prend combien de temps faire le tour des 10 personnages? Environ?
Vous savez, ça dépend du temps que votre accompagnateur va prendre à vous décrire les tableaux. C'est quand même assez long. Si vous demandez à ce que chaque photo vous soit décrite, à ce que chaque texte vous soit lu, c'est sûr, c'est un peu comme... Bon, les voyants font ça plus vite parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Ouais. Mais nous, si on veut avoir... C'est... Je trouve que ça fait beaucoup quand même réfléchir. Et ce que j'aime bien, c'est que les images dans l'ensemble, d'après ce qu'on m'en a raconté, bien entendu, sont assez naturelles et ne jouent pas sur la représentation misérabiliste un peu du non-voyant, comme ça a été trop souvent le cas, là. Alors, je trouve que j'ai trouvé ça plus touchant, surtout par les textes, que ce que j'aurais pu m'imaginer.
OK. OK. Intéressant. Merci beaucoup d'être allé pour nous.
Je vous en prie.
C'est donc la dernière fois au Musée d'art contemporain à Montréal jusqu'au 10 mai. On va causer avec, je ne sais pas si elle est coiffeuse ou esthéticienne, je sais à tout le moins qu'elle est propriétaire de l'ST4, ce salon qui a été honoré par certains organismes à Granby. On y revient. C'est le genre de musique qui... on ne sait pas trop si ça nous fait sourire de... Est-ce que c'est kitsch? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, ça ne nous laisse pas indifférents, ça c'est sûr. Bonjour José Melançon.
Bonjour.
Je disais que, vous étiez propriétaire de l'Institut de beauté. Est-ce qu'on dit l'Estécart, l'Estécart?
On dit Institut de beauté, STR.
OK, c'est une majuscule qu'il y a là et non un K. Parfait. En braille, ça se ressemble beaucoup. Et je me demandais si, en plus d'être propriétaire, vous étiez quoi, la coloriste, la coiffeuse?
En plus d'être la propriétaire, je suis maquilleuse professionnelle.
OK. Donc, c'est vous qui vous occupez de rendre, les binettes plus attrayantes.
Absolument.
On dit que, vous avez reçu le prix Orange. Il est, on dessert régulièrement des prix Orange à Granby pour saluer l'accessibilité universelle des gens qui font l'effort. Et j'avais envie de vous demander d'où est venue cette sensibilité au départ?
J'ai toujours été sensible aux gens qui étaient, entre guillemets, différents de nous, que ce soit peu importe la nature de la différence. Et puis, en ouvrant un nouvel institut à Granby, je voulais que les gens, tous les gens puissent venir à l'institut.
Donc, dès le départ?
Sans restriction. Oui, dès le départ. Je suis sensibilisée à ça depuis très, très, très longtemps, depuis mon enfance, je pense.
Votre entourage à l'époque?
J'ai personne dans mon entourage qui souffre de maladie quelconque, ou qui a des déficiences. J'ai personne qui a des déficiences, qui se promène en fauteuil roulant. Mm-hmm. Mais je ne sais pas, je pense que c'est en moi depuis très, très, très longtemps. Fait que quand on a ouvert ici, on avait déjà une rampe d'accès qui était faite pour les fauteuils roulants, pour les personnes à mobilité réduite. Puis on se devait de refaire la salle de bain parce qu'elle était trop petite. Puis, en la refaisant, bien, j'ai décidé qu'on la ferait plus grande pour que les fauteuils roulants puissent y avoir accès. Parce que quand on va dans les salons de coiffure ou dans les instituts, peu importe lequel on va, souvent les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se rendre, ils ne peuvent pas entrer par la porte. Puis, ils ne peuvent pas non plus aller à la salle de bain parce que les toilettes sont toujours trop petites.
Ça, c'est la partie facile et la partie, disons, assez répandue. Par contre, là où il faut s'adapter dans votre milieu particulier, je pense entre autres au shampoing. Souvent, lorsqu'on s'assoit sur une chaise, hein, on avance nos fesses, on glisse, on met la tête dans l'encavure de l'évier.
Oui.
C'est pas évident, ça, là.
Mais en fait, moi, j'ai acheté des chaises où il était facile de passer de la chaise roulante, du fauteuil roulant, à directement la station de lavabo. Uh-huh. Parce que j'ai acheté pas des chaises conventionnelles, j'ai acheté, c'est comme une genre de chaise longue avec un support lombaire et un support pour la tête aussi.
Est-ce que c'est beaucoup plus coûteux? Est-ce que vous en avez pour votre argent, entre guillemets?
Absolument, vous devriez. On en a pour notre argent parce que tout le monde adore ces chaises-là. Puis les personnes qui viennent ici, qui sont en fauteuil roulant, comme ils sont bas, il y a des appuis bras très bas de chaque côté, fait que les personnes qui sont en fauteuil roulant peuvent se mouvoir directement pour aller se coucher dans le fond sur ce fauteuil-là. Je vous dirais que c'est l'équivalent peut-être là, d'une chaise longue en plus court, puis avec un support lombaire. Puis dans le lavabo, j'ai un coussinet qui fait que la tête pendouille pas dans le vide là, ouais. pour tous les clients, dans le fond.
STR, qui est situé sur la rue Ferland à Granby, c'est...
Non, STR est situé au 147 Avenue du Parc à Granby.
Oh ben boy, oh boy, c'est une chance que vous l'avez dit.
Oui.
Donc, ça, c'est, disons, quelque chose qui vous tenait à cœur de toute évidence, mais est-ce que le bouche-à-oreille a fait que votre clientèle à mobilité réduite a peut-être augmenté? Est-ce que c'est le repère esthétique du coin?
Oui, tout à fait, parce que où j'étais située avant, les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas se rendre du tout. Maintenant, on a eu un publié reportage dans le journal local de Granby. Et puis, à partir de là, on a eu beaucoup de fauteuils roulants qui se sont déplacés pour venir voir, dont Mme Bédard, qui s'est déplacée pour venir voir l'Institut, qui est elle-même en fauteuil roulant. Puis, elle a constaté qu'elle pouvait se mouvoir là, facilement dans le salon. Elle pouvait se déplacer pour aller à la salle de bain. Puis, elle était capable de se déplacer pour aller au lavabo aussi. Ouais. Pour se faire laver les cheveux.
Si je pensais au lavage de cheveux, y a-t-il d'autres aspects dans les services que vous offrez où on a dû faire quelques ajustements?
En fait, on peut recevoir les fauteuils roulants en esthétique aussi, parce que mon esthéticienne Magali, elle peut s'adapter au lieu de monter les gens sur la table de massage ou sur la table d'esthétique. C'est elle qui adapte son service pour les personnes à mobilité réduite. Donc, tous les outils peuvent être adaptés là, pour faire soit un soin du visage ou un nettoyage de peau. Peu importe, là, les outils se déplacent là, facilement. Elle a sa salle, puis les fauteuils roulants rentrent très bien dans ça aussi. Là.
Savez-vous si c'est répandu comme approche, José? Parce que ça semble tellement simple chez vous.
Je m'excuse, j'ai pas compris la question.
Est-ce que vous savez s'il y a d'autres, s'ils sont nombreux, les salons d'esthétique? Au Québec, peut-être, on reproduit un peu ce que vous faites?
En fait, à Granby, je peux vous affirmer qu'il y a probablement d'autres endroits où les fauteuils roulants peuvent entrer. Par contre, je suis le seul institut où les fauteuils roulants ont leur place et où on a pensé à eux quand on a construit ici. La plupart des salons de coiffure, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas d'accessibilité à la salle de bain. Et nous, on a réservé une station de coiffeur qui est strictement réservée aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc, devant ce miroir-là, on n'a pas mis de chaise de coiffeur. On installe le fauteuil roulant, puis c'est mes coiffeurs qui se déplacent pour aller coiffer à cette station-là.
Ça fait du bien de vous entendre, José, vraiment.
Et ça, je peux vous confirmer que je suis la seule à Granby. Il va peut-être en avoir d'autres, mais pour le moment, je suis la seule à Granby à offrir ce service-là.
Ouais. Est-ce que ce prix orange de la dynamique des handicapés de Granby a augmenté le nombre de visites ou déjà le bouche à oreille avait fait son œuvre?
Bien, je vous dirais que déjà, le bouche à oreille avait fait pas mal son œuvre, là. Puis nous, on a un autobus qui passe à toutes les 30 minutes au coin de notre rue, Amibus. Puis le monsieur de Amibus vient chercher des feuilles de soins avec la liste de prix pour les personnes à mobilité réduite. Fait que je vous dirais que ça a amené un achalandage au salon beaucoup, là.
À quoi servent ces feuilles?
Pardon?
À quoi servent ces feuilles?
Ben en fait, c'est comme des dépliants dans lesquels sont offerts tous les services. Mm-hmm. Là. Et puis, souvent, il y a des gens qui viennent chercher les feuilles pour les donner aux personnes à mobilité réduite. Là.
Vos heures d'ouverture?
Oui.
Quelles sont-elles?
On est ouvert du mardi. On ouvre du mardi au samedi. On ouvre à 9h le matin. Et les jeudis, vendredis, on est ouvert jusqu'à 8h.
Bien, ça me fait plaisir. Je présume que vos prix sont concurrentiels.
On a les meilleurs prix à Granby.
Bien, ça, je ne m'attendais pas à autre chose de votre part qu'une phrase comme celle-là. José Melançon, merci beaucoup au nom de ces clientes-clients justement, l'ont plus facile. C'est agréable de se faire dorloter. C'est agréable de pouvoir sortir, d'être content de soi. Mais quand on peut entrer et savoir que ça ne sera pas compliqué, ça rend doublement agréable l'expérience.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et j'ai toujours dit que les personnes, peu importe la différence qu'on a, avaient droit au même service que tout le monde.
Vous avez bien raison. Et ben merci d'avoir passé à l'acte. José Melançon, qui est propriétaire de l'Institut de beauté STR. Je vous parlais de Trisomie 21. Ça se passe le 11 mars prochain du côté de Victor Charland. Ça, c'est dans Repentigny. Une idée comme ça qui, depuis quelques années, fait son petit bonhomme de chemin, à savoir inviter différents artistes pour chanter, pour faire la levée de fonds et en même temps sensibiliser les spectateurs. Jason Lang a décidé de s'associer à cela. Lui qui a une Megan de 14 ans qui est trisomique et qui est également autiste. Donc, c'est pas juste le chanteur, auteur-compositeur. C'est probablement surtout le parent qui a décidé de s'impliquer. On lui parle après la petite pause à la mise en onde Rémi Hermoso, réseaux sociaux Claudia Benoît, à la recherche Anne-Laure Janson. Mon nom est Luc Fortin, restez là, il nous reste encore 30 minutes à passer ensemble.
Ça vaut le détour.
Vive le direct. Avec Jason Lang. Bonjour, Jason.
Bonjour.
Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Tout ce que je sais de vous, je sais que ça fait racoleur, mais c'est tout à fait ce que je pense, c'est que vous avez une tannante de voix. Vraiment, bon, je ne vous connais qu'avec France d'Amour, j'avoue. Ah. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre mon oreille dans vos albums. Il y en a deux, je crois.
Oui, j'en ai deux présentement. Oui.
OK.
Je travaille sur une troisième.
Est-ce qu'on a une date?
Non, j'ai pas de date précise. Je fais ça vraiment comme je veux. Avec le temps que j'ai, je mets un peu là-dessus.
Ouais. Vous êtes porte-parole de l'Association des parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière. On vous a approché rapidement lorsque vous êtes devenu membre ou on a attendu que vous soyez très connu, on voulait que vous ayez des albums solo. Comment ça fonctionne?
Non, honnêtement, je suis devenu porte-parole. Ça fait quand même 14 ans que je suis membre de l'association. Ouais. Je suis devenu porte-parole le deuxième spectacle bénéfice qu'on avait donné. Pour le premier spectacle, c'était Véronique Dicker qui était la porte-parole. Puis moi, j'étais musicien pour elle quand même il y a longtemps. Puis elle m'avait approché pour participer au spectacle puis organiser le côté musical. Alors, après ça, Véronique, on sait, elle a eu un super, énorme succès et tout ça. Puis, ils m'ont approché pour être porte-parole. Puis, ça fait déjà, c'est le troisième spectacle que je suis porte-parole.
Ça représente quoi, une association au départ? Quand notre enfant, on parle de Megan, je le disais tantôt, bon, autiste et trisomique, c'est pas évident de s'associer. Hein, c'est pas évident de rentrer dans une association. Des fois, on n'est pas toujours prêt. Vous, est-ce que ça a été salutaire ou vous y êtes allé la première fois de reculons?
Mais je vais expliquer un peu comment on a découvert cet organisme-là. C'est ma femme était enceinte avec notre fille présentement, puis on a su qu'elle était trisomique d'avance. Et on voulait savoir un peu sur la trisomie 21. On n'avait pas beaucoup de... Bon, on connaissait personne qui avait des enfants avec, avec la trisomie 21. Puis on vit à La Naudière. Fait qu'on avait trouvé le numéro de APTEL, l'Association des parents des enfants trisomiques de La Naudière. Et c'est grâce à eux qu'on a eu la chance de rencontrer d'autres parents qui ont eu des enfants comme notre fille. Et ça nous permettait de voir c'était quoi, qu'est-ce qu'on attend après quoi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'il y a des grandes différences, comment ça va changer notre vie. Et ça, à ce niveau-là, l'association nous avons aidé beaucoup.
La semaine dernière, on parlait des services, des références et en milieu hospitalier, parfois, de comment on était appuyé. Et on disait que c'était pas toujours évident. On dirait que parfois, les infirmières ou le personnel médical ne sait pas toujours où nous référer. Et pourtant, on le sait, la myosynthèse existe. Comment vous avez-vous senti ce soutien-là de la part du personnel médical au départ?
Au départ, c'est drôle, mais ma femme, elle est vétérinaire. Fait qu'elle est curieuse de nature sur tout ce qui est par rapport à médical. Alors, on a eu une échographie. Puis c'est dans l'échographie que le médecin nous avons dit il y a des chances très faibles que notre fille soit trisomique. Et ces gens-là, nous avons référé pour faire une amniosynthèse si on voulait. Et qu'à ce niveau-là, c'était quand même bien, le soutien était bien. Ma femme, c'est le genre de personne qui a besoin de savoir tout. Alors, on a fait l'amniosynthèse. Excuse-moi, c'est pas facile pour moi. Merci. Et c'est ça. Après, le soutien, c'était quand même... c'était un peu différent quand même. On a eu pas une pression parce qu'on avait le choix d'avortement ou pas à ce moment-là. Puis, c'est pas qu'on a eu une pression de pas avoir notre enfant, mais c'était souvent dit, est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Vous réalisez que ce serait une vie un peu plus difficile? On sentait un peu la pression de ne pas avoir notre fille. Puis ça nous dérangeait.
Il y avait du non-dit qui parlait fort.
C'est ça.
Ouais.
Exactement.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Et là, vous confirmez, c'est quand même particulier.
Mais là, ça fait 14 ans. Ça a peut-être changé.
Mais pas tant que ça, d'après la directrice du regroupement québécois. Est-ce que... C'est pas de mes affaires, vous me dites ce que vous voulez, mais on dit que souvent, bon, lorsqu'on a des enfants différents... ça use un peu le couple. Est-ce que Meghan a fait en sorte que vous vous êtes rapprochés, que vous vous êtes peut-être séparés avant, pas séparés dans le sens de séparés, mais éloignés? Comment ça a influencé le couple?
Mais pour nous autres, la décision était rapide. On savait qu'on garderait notre fille. Mm-hmm. Fait qu'on était déjà une couple très fort. Puis pour nous, ça a changé rien. Okay. Ça a juste nous... ça nous permettait de savoir de l'information d'avance, puis de préparer d'avance.
Mais ça, c'est une chose de prendre une décision, mais après ça, il faut le vivre.
Exactement.
Il faut la vivre, cette trisomie-là, cet autisme-là, oui. Le regard des autres.
Oui, exactement. Ça, c'est pas toujours facile, mais moi, ça me dérangeait pas. Quand les gens regardaient ma fille, j'ai décidé de prendre ça comme une curiosité plutôt qu'une rapproche ou un regard bizarre. Puis les enfants, ils sont très honnêtes et ils vont regarder quelqu'un qui est différent parce qu'ils sont différents, pas parce qu'il veut être méchant. Fait que moi, j'ai décidé de regarder ça comme ça, puis moi, ça m'a aidé beaucoup. Ma belle-mère, par contre, c'était pas comme ça. Mm-hmm. Aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui regardait ma fille différemment ou posait une question, elle est devenue choquée. Mais moi, j'ai décidé d'être le plus sage que je pourrais.
Le fait que vous soyez musicien, que vous soyez habitué de répondre aux questions du public, est-ce que peut-être, justement, ça vous a un petit peu plus facilité cette acceptation-là, cette capacité-là?
Peut-être, mais je pense que c'est juste le genre de personne que je suis plutôt que le fait que je suis musicien. Par contre, c'est vrai que j'ai une à l'aise avec des questions, avec le monde qui pose des questions, puis d'être devant un public, ça me gêne pas. Fait que peut-être ça m'a aidé à ce niveau-là.
Avez-vous d'autres enfants?
Oui, j'ai un garçon aussi.
Est-ce que, disons, qu'est-ce que les deux enfants individuellement vous ont appris comme père?
Mon Dieu.
Juste pour voir la différence entre Megan et l'autre et comment chacun peut vous influencer dans le développement.
Mais il y a tellement de choses qu'on apprend comme parents avec des enfants qui ont une différence ou qui sont normales. Des fois, je dis normal, le sens que... j'avoue que...
Standard.
Oui, ma fille, c'était quand même, il y a des choses que c'est plus facile que mon garçon qui, admettons, l'adolescence d'un garçon, c'est pas évident. Mais ma fille, c'est très routine, c'est facile à ce niveau-là, pour moi, en tout cas, je trouve.
Ouais. Quel âge est le garçon?
Il a 16 ans, par
exemple. Ah oui, OK.
Alors, dans plein de d'adolescence.
Et bon, je disais que Megan était aussi autiste. Est-ce qu'elle est verbale? Est-ce qu'elle est un peu... ses capacités sont de quel ordre?
Elle a quand même son intellectuelle moyenne, est-ce que je dis ça, c'est ça? Fait que elle a la misère quand même de parler grâce à sa langue aussi. Les enfants trisomiques, ils ont une langue un peu plus grande aussi. Ouais. Fait qu'ils ont un peu plus de misère de prononcer les mots. Fait qu'on a fait beaucoup d'orthophonie, on a fait ergothérapie et tout pour la motricité verbale et tout ça. Fait que à ce niveau-là, c'est vrai que c'est plus difficile pour elle. Par contre, elle comprend tout ce qu'on dit. Elle répond et elle parle. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle sait comment exprimer ce qu'elle veut. Alors, nous, on comprend très, très bien dans les deux langues quand elle parle. Les gens, peut-être un peu moins, mais c'est quand tu es habitué. C'est ça, exact. Ouais.
Est-ce que la vétérinaire et le musicien ont pensé se rapprocher de Montréal peut-être pour avoir plus de services ou vraiment, dans la Naudière, vous êtes bien desservi?
Mais présentement, surtout avec l'association, on a quand même des ressources intéressantes. Quand on a déménagé sur la Rive-Nord, on était à Montréal avant et... On venait juste d'acheter une maison, fait que c'était pas dans nos intentions de retourner pour avoir plus de services.
Mais de toute évidence, en quittant Montréal, ça n'a pas été une préoccupation, là. Les services, OK.
Non.
Bon, Megan devrait être sur scène avec vous le 11.
Oui.
Est-ce qu'elle aime les chansons de son père uniquement? Qu'est-ce qu'elle écoute?
Qu'est-ce
qu'elle va nous offrir?
Elle aime tout. C'est vraiment incroyable. Tout ce qui est par rapport à musique, cinéma, performance, spectacle, elle adore ça. Elle a une patience pour s'asseoir, écouter, regarder tout ce qui est par rapport avec la musique. C'est quand même incroyable. Elle chante à tous les soirs avec moi. Tous les soirs, tous les jours. On fait quasiment 2 sets par jour de musique. Puis le fait qu'elle est autiste... c'est les mêmes chansons à tous les jours.
Okay.
Ça, c'est un peu difficile pour papa. Mais écoute, c'est ma fille, je vais le chanter pour elle.
Le top 5?
Oh mon Dieu, mais il y a les chansons des Beatles, il y a quand même Claude Dubois, il y a Gilbert O'Sullivan.
Que
pas beaucoup de monde connaît, mais c'est de nos jours. Mais moi, j'ai beaucoup aimé des chansons de lui. Et, je chante une... mais 2 chansons de lui à tous les soirs.
Est-ce que vous pouvez trouver une façon, en chantant des choses, d'immiscer ces chansons-là dans sa tête pour qu'à un moment donné, on puisse changer de répertoire un peu? Est-ce qu'il y a un truc pour...
Je voulais juste vous demander, avez-vous un truc?
Non,
Non, il y en a sûrement. Oui. Je peux toujours ajouter. Mais est-ce que j'y ajoute une chanson? J'avais essayé d'enlever une autre, mais... ce que j'ai réalisé, que la 7 est devenue juste plus longue.
Yes, alors, sir. OK. Ben ça, c'est comme Aznavour qui est obligé de faire la bohème, s'il ne le fait pas, il faut qu'il le fasse dans le rappel. Sûrement. Oui, oui, on ne s'en sort pas. Alors, c'est votre situation à vous. Vous êtes porte-parole donc de l'Association des parents d'enfants Trisomique 21 de Lanaudière. Ça se passe le 11 mars prochain. J'apprécie beaucoup le fait que vous ayez votre guitare avec vous.
Oui.
Je pense que vous êtes le deuxième depuis l'ouverture de Canal M à gratter en direct. Ça va, Rémi, parce que Rémi se demandait s'il devait revenir ou non, mais personne s'est déplacé. Donc, moi, je vous laisse aller pendant que Rémi va faire le contact avec Québec. Là, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce qu'elle fait partie des chansons quotidiennes, d'abord?
Non, mais je pense que ce que je vais faire, parce que je fais ça pour ma fille tout le temps, puis je parle de ma fille, peut-être je vais faire une chanson de Gilbert O'Sullivan.
OK.
Mais il y a une vieille chanson que peut-être beaucoup de monde le connaît. C'était quand même popularisé de nouveau dans le film Stuart Little, tu sais, le petit souris. Mm-hmm, mm-hmm. C'est une chanson, une belle petite chanson, Alone Again, Naturally.
Ah, bien sûr.
Mais là, je fais une version guitare parce que
je dirais quoi, 72?
Ça doit.
Oui, 72.
Ça. Mais une belle petite chanson que je fais ma version, un peu différente que l'original. Alors, je vais le faire ça. Et c'est dans le répertoire de ma fille que je fais avec elle tout le temps.
Ben, Eau Claire, c'est très bon.
In a little while from now, I'm not feeling any less sour. Promise myself to treat myself and visit a nearby town. Coming to the top, before myself off, in an effort to make clear to who everyone is like when you're shattered, standing in the lurch of a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No part in us remaining, may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. Well, it seems like only yesterday I was cheerful, bright, and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. As if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, coming into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy, for if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Well, seems to me that there are more hearts broken in the world, can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Alone again, naturally. Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wanting to hide the tears. At 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally.
J'aime ma job. Merci beaucoup, Jason Lang, et je comprends pourquoi elle veut chanter avec papa tous les jours.
Ah,
si vous la mettez dans le tour de chant, je vous dis que je vais être là le 11.
Super, excellent, je vais le mettre.
C'est bon, maintenant je vous demande combien ça coûte.
Le prix c'est 50$.
Parfait.
Mais il y en a toute une tranche d'artistes incroyables cette année. On a Nadja, France D'Amour, William Delaurier, Christian-Marc Gendron, Mélanie Gay, Maud Ciarelli, mon Dieu, Marie-Pierre Perrault. Plus des jeunes, ils vont faire partie du spectacle aussi. Il y a de la danse, la musique. J'ai un batteur, un jeune batteur trisomique, la claquette, fantastique. Ah, oui. C'est super. C'est
ça commence à quelle heure?
Ça commence
à l'heure.
Je crois que c'est 7 heures que les portes rouvrent, 7h30, et le spectacle débute à 8 heures.
Excellent. 11 mars, du côté d'Hector Charlin, c'est à Repentigny.
L'Assomption, juste à côté
L'Assomption.
De
L'Assomption, okay. Oui,
exactement.
Okay. Et on peut réserver, mon Dieu, que j'ai des feuilles devant moi. Dites-moi donc ça, là.
Oui, vous pouvez appeler l'association.
Ou la salle de spectacle.
Oui, ou la salle de
c'est
spectacle,
peut-être plus
exactement.
Connu, c'est peut-être plus simple.
Oui, oui, sûrement.
OK. Merci beaucoup, beaucoup, et pour la guitare, et pour votre présence. Et on se croise le 11 mars.
Super.
Est-ce qu'on a Camille au bout du fil?
Oui, bonjour.
Bonjour, Camille. Comment allez-vous?
Ça va bien vous-même?
Ben oui, avez-vous eu le temps d'entendre un ou un couplet et demi au moins?
Oui, hein? C'était vraiment très bien.
C'était effectivement vraiment très bien. Parlez-moi de votre challenge hivernal, 5e édition. Il me semble que c'est de plus en plus long. Là, on est rendu du 31 janvier à la fin mars cette année.
Oui, tout à fait. La 5e édition, on y va en grand. Là, c'est de plus en plus là, populaire. Là, cette année, on a 12 disciplines sportives qui s'étalent sur toutes les fins de semaine là, des mois de février et de mars. Là.
Vous avez également ajouté des journées d'initiation cette année.
Oui, le volet pour nous, initiation, là, était très important là, pour faire découvrir puis démystifier un petit peu les sports adaptés. Donc, on y est allé en force là, sur les journées d'activités, de sensibilisation puis de démonstration des sports adaptés. Là, on en a 6 là, cette année. Là.
Ça, c'est donc que ça a bien fonctionné l'an passé.
Oui, exactement. On a beaucoup de jeunes d'écoles spécialisées ou même des personnes qui n'ont pas de handicap du tout qui viennent essayer les sports. Donc, on en a mis de plus en plus à notre programmation. Là.
On dit qu'on a fait un effort pour les jeunes autistes. De quelle façon on a voulu s'adapter?
Oui, bien, en fait, là, cette année, ça va être une première. On va offrir du hockey adapté dans notre programmation. Vous savez, au Challenge, là, on a déjà du hockey sur luge puis du hockey sonore pour personnes qui ont une déficience visuelle. Puis, on a été approchés par une équipe qui est en Montérégie qui commence à organiser du hockey là, pour des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Puis, cette année, dans le fond, pour finir bien leur saison, là, nous, on leur permet là, de. On leur offre une compétition adaptée dans la même fin de semaine là, que notre hockey sur luge. Donc, il va y avoir deux équipes. Là,
du type les bleus contre les rouges?
Oui.
Oui, c'est ça, du même groupe, là, puis on fait les équipes. Puis...
Oui, exactement. Donc, c'est 12 jeunes entre 6 et 14 ans là, qui vont venir.
Là, sur la même glace?
Oui.
Wow! Ça ne va pas être évident, ça?
Non, bien, c'est ça. Pour nous, ça va être une première également, mais...
Mise en échec du 14 ans sur le petit gars de 6 ans dans le coin, là...
Bien, c'est sûr que ça, c'est le développement, là. Avec 12 jeunes, là, mais c'est une volonté là, des organisateurs là, qui sont en charge de l'équipe de vraiment diviser les groupes l'année prochaine, là, une fois qu'ils auront plus de jeunes, là, pour faire vraiment deux catégories, justement, un petit peu plus dans les mêmes tranches d'âge. Là.
Camille Marchand, étiez-vous là au départ, vous, il y a 5 ans?
Oui, moi, j'étais au Challenge, là, au tout premier Challenge.
Étiez-vous dans les premières réunions là où on a eu l'idée devant la bière et on s'est dit, il me semble qu'on devrait partir ça. Et est-ce que vous aviez une idée de où vous vouliez être 5 ans plus tard? Parce que ça a vraiment grossi, ça.
Ah oui, en 2011, en fait, là, ben c'est sûr qu'avant, le challenge a vraiment débuté là, avec l'initiative des intervenants du Centre de réadaptation qui, eux, faisaient quelques compétitions pendant l'année, mais c'était pas un événement en soi. Là. Puis quand ils ont approché l'organisme Adaptavie, notre organisme, pour faire de cet événement-là juste un événement qui rassemble toutes les compétitions, c'est sûr qu'on je pense pas qu'on s'attendait à ce que ça devienne aussi gros puis qu'on rejoigne l'année dernière 500 athlètes, mais on voit vraiment l'intérêt là, que les gens ont envers les sports adaptés. Là.
Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez suffisamment de bénévoles? Je me souviens, l'année passée, lorsque j'avais parlé à votre collègue, on disait « Ah, il y a des fins de semaine où c'est plus difficile, d'autres où ça va bien. » Avec le froid, là, est-ce que ça a été plus difficile cette année?
Non, vraiment pas. Je crois que les gens commencent à nous connaître. Puis le challenge hivernal, c'est vraiment une bonne opportunité pour les étudiants, soit en kinésiologie, en éducation spécialisée, pour faire une expérience là, d'apprentissage puis de côtoyer un peu plus la clientèle avec laquelle ils vont peut-être travailler. Fait que sérieux, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles là, qui nous approchent pour être bénévoles au challenge. Là. Fait que ça va super bien. On a vraiment des bénévoles en or. Là.
Quel est l'apport d'Altergo cette année?
Altergo, c'est sûr que eux, c'est toujours notre mentor, si vous voulez, là, qui nous soutiennent encore beaucoup là, au niveau du hockey puis de tous les sports, qui nous donnent un soutien de conseil puis aussi un soutien là, en ce qui est attrait au matériel. Puis, donc, ils sont encore très présents là, avec nous. Là. C'est un très, très grand collaborateur.
Ouais. Mis à part le hockey, avec ce club de hockey pour un joueur avec TSA, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Bon, on a parlé d'ajout de journée de sensibilisation, peut-être, tiens, nommer les dates, peut-être?
Oui, en fait, là, nos prochaines dates pour les initiations, c'est il va y en avoir une le 12 mars. C'est un jeudi dans la semaine pour l'initiation au hockey sur luge. Donc, il va y avoir également le samedi 14 mars. C'est un salon des sports adaptés qu'on présente là, au centre de réadaptation directement. On présente tous les sports là, qui sont offerts à l'année longue chez AdaptaVie. Donc, des sports qui ne sont pas nécessairement des sports d'hiver, mais on permet à une journée là, de faire essayer tous ces sports. Puis le dimanche 15 mars, on a un salon découverte avec du hockey sur luge, du boccia, du curling, puis des activités de sensibilisation, donc autant pour des gens qui ont handicap que ceux qui n'en ont pas. Là.
Camille, je suis curieux, pourquoi ne pas avoir mis de journée de sensibilisation durant la semaine de relâche?
Bonne question.
Parce qu'on peut penser que les gens auraient pu vouloir profiter de ça, malgré que peut-être aussi, je ne sais pas, on va avoir de la difficulté à trouver des bénévoles parce qu'eux-mêmes vont peut-être être occupés avec leurs enfants, je ne sais pas. Est-ce que ça avait été...
Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a toute une logistique en arrière, comme vous le dites, là, de la part des bénévoles, mais aussi de la part que les gens, parfois, sont à l'extérieur, puis tout ça. Mais nous, là, par exemple, là, pour nos journées d'initiation, souvent, les gens, ça commence d'une demande qu'on a là, vraiment à l'externe. Là. Par exemple, pour notre jeudi 12 mars, à l'initiation du hockey sur l'œil, c'est vraiment l'école de Madeleine Bergeron qui nous demande de faire une journée dans la semaine pour que les jeunes puissent y aller puis avoir l'encadrement scolaire là, également. Puis durant les fins de semaine, là, cette année, là, notre salon découverte le dimanche 15 mars, c'est vraiment d'une demande, dans le fond, d'une maison des jeunes donc qui, eux, veulent sensibiliser les jeunes qui vont à la maison là, avec ces activités-là.
Quel est votre soutien financier?
Soutien financier, on a notre partenaire principal et majoritaire qui présente l'événement, c'est Hydro-Québec, bien entendu. Puis, on a plusieurs collaborateurs aussi, comme la Ville de Québec, puis l'Institut de réadaptation des déficiences physiques, qui sont encore nos grands collaborateurs là, là-dedans. Puis sinon, c'est des commanditaires là, plutôt privés. Là. C'est toujours le nerf de la guerre, le financement, là, mais on finit toujours par trouver... Ouais. Puis essayer de faire en sorte que notre activité fonctionne.
Camille, si on avait recensé 500 athlètes l'année passée, est-ce qu'on a déjà une idée de combien devraient participer à l'édition 2015?
Oui, en fait, on est optimiste pour avoir là, 600 athlètes cette année, là, athlètes et participants. Là. Donc, on continue de grandir. Là.
Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, compte tenu des moyens et tout, il va falloir mettre un couvercle pour ne pas qu'on déborde tel ou tel... disons, tel nombre d'athlètes ou...
Bien, nous, on n'a pas de limite, en fait. Comme je vous dis souvent, on va créer des activités puis on à la demande des gens, là. Par exemple, pour le hockey, là, adapté pour les jeunes autistes, c'est vraiment des gens qui veulent participer puis qui veulent développer leur sport puis le faire connaître. Fait que c'est sûr que nous, on n'est jamais fermé, mais c'est sûr que la barrière financière, elle apporte toujours un petit obstacle de plus.
Là. Bon, je disais du 31 janvier au 29 mars, est-ce que ça implique qu'il y a des activités chaque fin de semaine ou il faut vérifier sur le site?
Non, il faut vraiment vérifier sur le site Internet. Il y a quelques fins de semaine là, qu'on prend un petit répit là, pour préparer mieux notre prochaine compétition, mais c'est 6 fins de semaine en fait. Là. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voudriez avoir, disons, dans 5 ans? Parfois, il y en a qui font des plans triennales, d'autres des plans quinquennales. Est-ce qu'il y a justement un désir, que ce soit d'accueillir une finale internationale, que ce soit, je sais pas.
Bien, c'est sûr que pour nous, les activités hivernales, les sports hivernales, à un moment donné, il y a un plafond, on peut plus en inventer d'autres. Hein. Mais c'est sûr que d'accueillir, il en reste encore qu'on pourrait faire là, très bien de nouveaux sports. Mais c'est sûr que d'avoir plus d'athlètes, ça, c'est vraiment dans notre plan de développement. Puis c'est sûr que si on a des opportunités pour accueillir des compétitions d'envergure plus à l'international, nous, c'est sûr que ça, c'est dans nos souhaits.
Je pensais entre autres à la planche à neige, qui est plutôt pratiquée en Europe ou dans l'ouest du Canada, mais il serait intéressant peut-être d'avoir des démonstrations pour donner aux gens ici le goût peut-être de démarrer quelque chose. Mais je comprends que ça demande des ressources. Là.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste de l'inclure dans notre programmation, c'est de travailler en amont pour vraiment développer les sports puis justement recruter de nouveaux athlètes. Là.
Avec les fédérations.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, beaucoup. Bon succès, Camille Marchand.
Eh bien, merci à vous.
Et bien, c'est c'est quoi, il nous reste 5 semaines environ là, d'ici la fin du challenge.
Oui, exactement. Donc, notre dernière là, dernière compétition, le hockey sur luge, là, c'est notre plus grosse, là, notre grosse fin de semaine du 27 au 29 mars. Donc, ça va être la finale du challenge pour finir en beauté.
Camille Marchand, qui est responsable logistique des événements spéciaux, elle est du côté de Adaptavie. C'est ça, hein, Camille? C'est Adaptavie qui vous paye, vous?
Oui, exactement, c'est Adaptavie.
Il ne faut jamais mordre la main qui nous paye.
Non, c'est sûr.
Bonne fin de semaine à vous.
Hey, merci, vous aussi, au revoir.
Alors voilà, particulièrement aux gens de l'Est du Québec, les gens de Québec et de la grande région, là, profitez-en bien. L'hiver, on a un vrai cet hiver, et ben, les sports d'hiver, c'est dans ces moments-là, je trouve qu'ils prennent tout leur sens. On le sait, l'adage, hein, c'est comme... faut trouver une façon de l'aimer cet hiver-là. Et ben, surtout lorsqu'on a des limitations fonctionnelles, le transport adapté nous donne parfois des difficultés de sortir, de se déplacer. Mais quand on a vraiment envie de le faire parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir, on dirait que les difficultés pour s'y rendre, ben, on les oublie plus facilement. On va parler de transport adapté et de l'AMT dans Accès libre. C'est le sujet de l'heure que ce train de l'Est et bien d'autres choses. On fera également un petit appel en Colombie. Donc, on vous invite à être là, Jérôme Bobin et moi. Merci aux participants de cette émission. À bientôt.